pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Qui nous emmène là, c'est notre volonté commune de se battre pour un monde simplement viable demain. C'est notre amour des rivières. C'est notre amour de pouvoir simplement se baigner dans nos rivières, dans nos marais, de pouvoir s'estomaquer d'un vol d'un héron et ces choses-là.
21 mai 2026, Julien Leguet, co-porte-parole de Bassine Non Merci devant le tribunal de Paris.
Notre lutte, non seulement elle est légitime, mais en plus elle est quasiment légaliste. On nous qualifie d'intervention dans les termes de désobéissance civile, alors que nous luttons contre des ouvrages qui sont classés illégaux. Alors qu'il est, la bassine de Sainte-Soline, elle est vide parce qu'elle est illégale.
Quand il est illégal de lutter contre une chose illégale, l'une des innombrables absurdités qui parsèment le marathon judiciaire entamé par Julien depuis des mois et des années, avec notamment des audiences en décembre 2025, mars, mai, juin 2026, dont cette étape parisienne du 21 mai dont on vous parle aujourd'hui. Après avoir la semaine précédente écopé de 6 mois de bracelet électronique et de 20 000 euros d'amende au tribunal de Poitiers, Julien retrouve donc le banc des accusés, ici parisien, pour un procès pour diffamation, accusé d'avoir qualifié d'assassine la préfète Emmanuelle Dubé, qui, à la demande de Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, pilotait la féroce répression policière de Sainte-Soline qui a fait plus de 200 blessés. Sauvage et inutile carnage, puisque ce 25 mars 2023, 3000 gendarmes ont blessé et mutilé pour défendre un trou vide où il n'y avait rien à dégrader. C'est ce nouvel épisode de la persécution judiciaire dont Julien est victime qu'on vous invite à suivre aujourd'hui. 21 mai 2026 donc, une cinquantaine de personnes s'est réunie dans un jardin public à deux pas du tribunal de Paris. Et parmi tous les soutiens, des opposantes au méga-canal Seine-Nord Europe, des soulèvements de la Seine, soulèvements de la Terre et autres luttes, dont des militantes de la lutte du Triangle de Gonesse, des membres des syndicats Confédération Paysanne, Solidaire, CGT, FSU, Syndicat National de l'Enseignement Technique Agricole, ainsi que des députés écologistes et de la France Insoumise.
Merci beaucoup d'être rassemblés en soutien au camarade Julien qui tout à l'heure passait en procès parce que il a osé dire que Darmanin était un ministre assassin quand il était ministre de l'Intérieur et que Emmanuelle Dubé était une préfète assassine. On rappelle que pendant Sainte-Soline, le travail d'investigation journalistique a montré que les secours ont été empêchés de venir sur place quand bien même il y avait des blessés très graves. On a un camarade qui est resté en coma pendant très longtemps. Cet empêchement d'accès aux soins qui a été montré par le documentaire d'Off Investigation, notamment donc Sainte-Soline, autopsie d'un carnage, montre bien qu'il y a une volonté d'empêcher l'avenue des secours de créer des blessés graves en fait. Donc cette procédure Bayon qui vise le camarade, c'est vraiment pour étouffer toute critique des gens qui osent s'opposer à l'agro-industrie et à la privatisation de l'eau. Merci, nous on vient de notre campagne des Deux-Sèvres, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Et nos bassarades.
Quelques militants de Bassine Non Merci se regroupent autour du mégaphone pour lire la lettre magnifique adressée à Julien par un sympathisant.
Julien, je t'adresse cette lettre, t'imaginant chercher au fond de toi comment dire haut et généreusement les milliers de personnes que ta voix représente. Ce que je peux t'apporter depuis mon angle, habité de ma culture, celle qui fait ma dignité face aux coups de ceux qui ne cessent de nous l'enlever. Ce que le procès peut instruire, une histoire longue. Les bassines ne sont pas le début de l'histoire. Elles en sont l'aboutissement. Dans les marais de basse Mésopotamie, des gens vivaient comme les huttiers du marais Poitevin, sur des îlots de roseaux, autonomes, pêcheurs, presseurs, paysans de l'eau. Leurs maisons étaient faites de roseaux. Leurs bateaux, leurs nattes, leurs paniers, tout venait du marais. Personne ne les avait colonisés parce que l'État ne savait pas les atteindre, ne savait pas lire ce territoire-là. Jusqu'au jour où il en eut les moyens techniques. Alors il a drainé, cadastré, restructuré. Et ces gens ont perdu, en quelques décennies, ce que leurs ancêtres avaient construit en des siècles, sans qu'on les consulte, sans qu'ils aient les mots pour nommer ce qui leur arrivait.
Le marais Poitevin, c'est la même histoire. Les huttiers, des gens venus chercher asile dans les zones que l'État ne pouvait pas quadriller, huguenots traqués après 1685, réfractaires de la Révolution, puis de l'Empire. Ils ont vécu pendant des siècles de ce que le pouvoir ne savait pas voir ni taxer. Fossés tous les 10 mètres, osier coupé en mars, panier pour les huileries, deux ou trois vaches, quelques arpents de bois, une économie du peu qui nourrissait son monde. On les appelait les colibères, libres du collier. Un homme que j'avais rencontré à l'île d'Elle avait 79 ans au moment où nos échanges face à la vallée. Il se souvenait, le corps ému d'un traumatisme sourd, de quand les engins sont arrivés, dans les années 1950-1960. Au début, il s'enfonçait dans la vase. Les gens regardaient et se disaient « jamais ils ne pourront ». Puis ils ont eu du matériel plus lourd. Ça a duré 10 ans. Quand c'était fini, il ne restait plus que la plaine et une papeterie. « C'est le désert complet, dit-il. Ce n'est pas lui qui a voulu ce changement. Ce n'est pas lui qu'on a consulté. Il ne savait même pas qui avait mis ça en branle. »
Ce remembrement, que les gens appelaient démembrement, ce n'était pas un accident. C'était un programme. Déjà sous le régime de Vichy, des agents de l'État, sincères, convaincus d'œuvrer pour le bien de ces familles, ont organisé des groupements de vulgarisation agricole. Sa généalogie remonte à 1879, à la création des chaires départementales d'agriculture, dont la mission explicite était de diffuser dans le monde agricole des connaissances techniques jugées non appliquées. On touchera les individus, précisait le texte fondateur, soit directement, soit par l'intermédiaire des instituteurs ruraux. Un ouvrage fut distribué au corps enseignant, l'école devant le problème paysan. L'instituteur et le professeur d'agriculture, les deux bras d'une même entreprise de mise en lisibilité du monde paysan. Des réunions chez les uns et les autres où l'on expliquait à de jeunes paysans ce que le progrès avait l'air d'exiger d'eux. Le Crédit Agricole organisait des voyages en Hollande pour montrer les systèmes hydrauliques. Et peu à peu, ces jeunes se sont détournés de la culture de leurs parents. Aujourd'hui, le maïs est partout et les nappes regorgent de pesticides et autres saletés.
Ce qu'ils ont perdu dans cette affaire, eux et leurs héritiers, actuellement agriculteurs et céréaliers, les savoir-faire du sol, les gestes, les petites chasses, les temporalités, les langues dans lesquelles tout ça se transmettait. Ces pertes ne figurent dans aucun bilan comptable. Ces industriels hors sol vivent au tempo des cours mondiaux. Et l'eau vivante, elle, est entrée en bourse en 2020 à Chicago. Cette destruction culturelle commence avant les agents de vulgarisation agricole. Dans les campagnes de l'Ouest, depuis l'époque romaine, les divinités ne manquent pas. À Gazouza, la déesse de la haie en Europe, appartient au même horizon. L'Église a tenté de détruire ces figures qui tenaient dans les esprits et dont il demeure quelques traces dans un dicton météorologique, un chant de protestation, la poutre d'une maison dont l'étymologie est « jeune jument ». La destruction des savoirs populaires n'a pas précédé la destruction des haies par hasard. Elle en a été la condition.
Avant que le remembrement n'enterre ses arbres dans la vallée de l'île d'Elle, il avait fallu des siècles pour vider les haies de leur épaisseur signifiante. La maîtrise de la biodiversité et la maîtrise des croyances sont les deux faces d'une même pièce. La destruction d'une culture par la destruction de ce qu'il a fait, son milieu, sa langue, sa musique, ses gestes, ce qui s'exprime plutôt que ce qui se copie, sa mémoire, ses transmissions par imprégnation. On ne détruit pas un milieu sans détruire d'abord ce que les humains savaient en faire, savaient en exprimer, sans d'abord leur apprendre à en avoir honte, à en rougir. Dubé en est l'une des héritières dans ce système, ainsi que nous toutes et tous. Et il y a fort à parier qu'elle n'en sait rien. En servant l'esprit du roman national, elle prolonge par sa fonction un geste colonial dont l'école laïque ne dit pas grand-chose, surtout quand sa morale s'adresse aux classes populaires. Ce processus a un nom que Pierre Bitoun et Yves Dupont, sociologues, ont employé dans le sacrifice des paysans, l'ethnocide.
Comment la modernité a tué les paysans? Pas en les massacrant, comme en Algérie, où des millions de paysans furent déplacés de force par l'armée française, mais en les poussant à rougir de leur langue, de leur accent, comparés dans leur usage aux sauvages, ceux qu'on avait fabriqués comme tels par les eaux humains, dont celui qui était installé à Poitiers fut présenté à 45 000 visiteurs. Ce nombre, c'était nos proches ancêtres, notre famille, nos voisins, ceux-là même parmi eux qui nous ont élevés à ne pas ressembler au peuple de l'eau et de l'argile, ainsi qu'à tous ces humains considérés comme des sous-hommes. N'oublions pas la controverse Valladolid en 1550. Ce qui manque le plus cruellement à nos luttes, une conscience de ce que nos corps ont perdu, Quand on ne sait plus d'où on vient, ce qu'on mange, ni comment le produire, on défend un territoire dont on a perdu la cosmogonie. Celles et ceux qui dirigent devraient lire les sciences humaines, rencontrer les anthropologues, ainsi peut-être sortiraient-ils de la tyrannie de la monnaie, celle des économistes qui dévalorisent les valeurs d'usage dont parle Bernard Friot.
Et aujourd'hui, les exploitations raccordées aux bassines sont majoritairement céréalières. Entre 70 et 80% de ce grain quitte la région par le port de La Rochelle, en direction de l'Algérie, du Maroc, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Europe du Nord. Ce que les bassines défendent, ce ne sont pas les veaux aux yeux tendres ou les biquettes souriantes qu'on montre aux caméras ou aux touristes de la Venise verte. C'est la logistique d'export d'une agriculture industrielle qui a besoin de garanties pour tenir les rendements que les contrats avec les coopératives exigent. Les bassines sont la suite logique d'un processus commencé 60 ans plus tôt dans une cuisine, lors d'un groupement de vulgarisation. Autour d'une table avec un verre de cidre et une galette, où un agent de la Chambre d'agriculture de Vendée expliquait à deux jeunes paysans ce que le progrès avait l'air d'exiger d'eux. Nommer cet arrachement commun, celui des paysans du Poitou et celui des habitants venus d'ailleurs, est un acte politique. Car on ne peut pas retourner contre une population sa propre souffrance quand celle-ci a appris à la nommer et à la communiquer. C'est précisément ce que ce projet cherche à empêcher.
Ce que Dubé représente, elle n'est pas une personne. Elle est un maillon dans cette chaîne. Elle représente un État qui subventionne avec de l'argent public la destruction d'un commun qu'est l'eau et les rapports cultuels et culturels à l'eau et à l'ensemble d'un milieu. Elle couvre la répression d'une manifestation dont la bleusaille a fait pleuvoir 5000 grenades et classe sans suite les enquêtes sur les violences policières contre des manifestants laissés pour morts sur le terrain. Ce classement sans suite est ton principal argument devant ce tribunal. Non pas un argument de défense, mais une mise en accusation du système qu'elle incarne. André Paché, figure importante des cultures populaires, particulièrement en Poitou-Charentes, l'avait formulé ainsi. Le paysan, ne se voyant pas reconnu par la société, entre en résistance, mais une résistance inconsciente, un traumatisme mal nommé qui l'empêche de comprendre ce qui lui est fait et donc de le nommer collectivement. La seule issue à ce blocage passe par la reconnaissance mutuelle, que le paysan soit reconnu comme porteur d'un savoir, d'une culture, d'une dignité, et non comme un retardataire à moderniser. Dubé et ceux qui l'ont mandaté n'en veulent pas. Reconnaître cela reviendrait à admettre que l'État, depuis des siècles, détruit ce qu'il prétend protéger, les terres, les cultures, les gens qui y vivent. Ils ont préféré les grenades car, à ce stade de l'ethnocide qui induit l'écocide, il faut se débarrasser de ceux qui portent encore une culture qui représente une menace pour les dominants, des sauvages en France intérieure qui, à tout moment, malgré l'éducation, comme celle imposée en Algérie, pourraient se réensauvager. La maîtrise de la biodiversité et la maîtrise de la diversité sont les deux faces d'une même pièce. La France a un ministère de la culture et ses missions civilisatrices à l'extérieur comme à l'intérieur se débarrassent de la pluralité gênante pour l'extractivisme et le pouvoir des gros sur les petits.
Milan Kundera l'a dit, pour liquider un peuple, on commence par effacer sa mémoire. On détruit ses livres, son histoire, sa culture et quelqu'un d'autre, lui, écrit d'autres livres, une autre histoire, une autre culture. Lentement, le peuple oublie qui il était. Puisses-tu faire entendre par le timbre de ta voix la dignité dont l'argile créolisée est habitée et dont l'humanité est construite depuis sa sortie d'Afrique, dont sont faits les nids, nos bourrines, amis, frères, sœurs de toutes les zones humides, Raptron, Fessour, Basse-Couette, Ajas, Cendrille. Le mot assassine n'est pas une insulte à défendre ou à atténuer, c'est une qualification politique à assumer et à démontrer. Ce que les tribunaux savent obtenir des militants et militantes, ce n'est pas de les faire taire, c'est de les faire se dédire. La clémence arrachée est le prix de la dignité abandonnée, et par là même, un peu du combat. Le procès ne se défend pas sur le terrain de la diffamation, il devient l'instruction judiciaire de ce que je viens de décrire. La stratégie de la rupture consiste donc d'abord à se taire face au tribunal. Revendiquer devant lui, c'est reconnaître qu'il a la légitimité de nous juger. S'adresser aux populations, c'est signifier qu'il ne l'a pas.
En faisant de l'audience un enjeu politique public, en déplaçant le regard du prétoire vers l'histoire, la peine prononcée
prononcée devient politiquement insupportable à exécuter, mais la sanction n'en est pas moins forte et toujours disproportionnée face aux Sarkozy et à leur monde. N'ayons pas peur de la confrontation aux figures qui nous écrasent. Affrontons tous les pouvoirs représentés à l'intérieur d'un procès contre le peuple, les gilets jaunes, et cela systématiquement en disqualifiant leurs pseudo-experts par des scientifiques et des experts ordinaires dont la renommée est reconnue. Montrons comment leurs enquêtes sont mal ficelées, peu scrupuleuses. Contestons les décisions des juges quand ces derniers ne comprennent rien à ce qui fait la vie, au cycle de l'eau et du vivant en général. Faisons entrer l'anthropologie pour tous dans les matières de l'éducation nationale, dans les lycées agricoles, dans les lycées techniques, tels que ce fut fait dans le lycée Le Corbusier à Aubervilliers.
Apprenons-leur que l'étymologie latine du mot « religion » ne renvoie pas à l'idée de relier, mais à celle de scrupule. En ce sens, le parc naturel régional et François-Marie Pellerin, en signant ce protocole, en ont cruellement manqué envers le vivant et la démocratie. Si ton nom doit payer pour les humains et non humains que tu représentes, alors le nom de l'ex-préfète doit payer pour le système qu'elle représente. Cher Julien, je serai là jeudi en pensée. Nobassaran !
Bassine derrière chez moi, mais y'en aura pas une.
Bassine derrière chez moi, mais y'en aura pas une.
De chez Bassine, n'en volons pas, de chez Bassine, n'en aura pas.
De chez Bassine, n'en volons pas, de chez Bassine, n'en aura pas.
De chez Bassine, n'en volons pas, de chez Bassine, n'en aura pas.
De chez Bassine, n'en volons pas, de chez Bassine, n'en aura pas.
Il y a deux bassines derrière chez ma, mais n'en aura pas une.
Deux bassines derrière chez ma, mais n'en aura pas une.
À présent, on va accueillir des camarades qui sont là pour représenter les camarades qui passent en jugement dans l'affaire du 8 décembre. Merci pour elle.
Le 8 décembre 2020, 9 militants de divers courants politiques dits de gauche se sont fait interpeller dans toute la France par la DGSI pour association de malfaiteurs à caractère terroriste. Tous ne se connaissaient pas, leur seul point commun était un camarade, Libre Flow, parti au Rojava aux côtés des Kurdes, des Yépégués. À l'issue d'une gaffe de 96 heures, deux personnes sont placées sous contrôle judiciaire, 5 autres sont placées en détention provisoire, entre 5 et 11 mois, et jusqu'à presque 16 mois à l'isolement total pour l'un d'eux. Il ne sort que grâce à une grève de la faim de 37 jours. En 2023, après un mois de procès, la justice a conclu qu'il n'y avait pas de groupe, pas de projet, pas de cible, mais subsistent des intentions supposées. L'État a déployé tout un arsenal de moyens inédits pour tenter de trouver quelque chose de suspect, toutes les méthodes les plus dégueulasses ayant été employées pour parvenir à créer de toutes pièces un faisceau d'indices concordants, caractérisant l'association de malfaiteurs terroristes. Les 7 inculpés sont condamnés pour terrorisme avec des peines de prison ferme, fichage européen, interdiction de communiquer entre eux et inscription au FIJET, fichier des terroristes, et cela pour 20 ans.
6 d'entre eux font appel de cette décision et sont jugés en ce moment à la Cour d'appel de Paris sur l'île de la Cité. Ce procès, comme en première instance, n'est que violence, faux-semblants, mépris de la part des magistrates, avec des débats entièrement à charge contre les inculpés. Il est important de se mobiliser pour afficher notre soutien et empêcher que la justice et l'État nous invisibilisent. Soutenir le 8 décembre, ce n'est pas seulement soutenir individuellement ses camarades-ci, c'est surtout lutter contre la répression de tous. Si la caractérisation de terrorisme était validée au terme de l'appel, cela offrirait une jurisprudence inédite pour réprimer les opposantes politiques. Fini les tentatives de dissolution de groupes politiques autonomes et des collectifs anti-autoritaires. L'État pourrait nous envoyer directement en prison sous l'accusation d'associations de malfaiteurs à caractère terroriste. Soyons nombreuses pour se soutenir face à un État et une justice qui cherchent à broyer nos idées, nos modes d'organisation, nos liens, nos modes de vie, nos rêves révolutionnaires. Cette affaire montre que l'antiterro est là pour créer des ennemis de l'intérieur et faire peur à tous celles qui souhaitent s'engager pour un monde plus juste. Cette condamnation ouvre la porte à une criminalisation normalisée du monde militant. Plus besoin d'appartenir à un même groupe, de se connaître ou voire même de faire une action quelconque pour subir l'accusation de terrorisme. Il est de plus en plus récurrent de voir des condamnations pour apologie du terrorisme ou de voir les moyens de l'antiterrorisme appliqués au monde militant via l'ASDAT. Les médias parlent aussi d'éco-terroristes. Ainsi, l'antiterro devient la nouvelle norme répressive. Parce que demain, ce sera vous, nous, les terroristes. Aujourd'hui comme demain, ne nous laissons pas antiterroriser.
Bonjour. Julien, c'est une personne qui est un des symboles d'un mouvement social fort pour l'écologie. Des personnes qui se sont soulevées pour l'écologie, il y en a eu des centaines, il y en a eu des milliers, des centaines de milliers ces dernières années. Ce qu'on constate,
sur les 2-3 dernières années en particulier, c'est que toutes les semaines, il y a 2, 3, 4, 5 personnes qui sont en procès. Ce qu'on voit, c'est qu'on a mis sur le mouvement écologiste une des polices les plus violentes de l'Europe. Parfois, il y a la police antiterroriste qui est déployée contre ces luttes-là, comme ça a été déployé sur d'autres luttes. Ce qu'on voit, c'est que la justice est instrumentalisée pour des faits d'une banalité affligeante, que ça soit l'affaire de Julien aujourd'hui, que ça soit des camarades qui, au Havre, ont déployé une banderole entre deux poteaux qui se retrouvent à faire 16 heures de garde à vue, des personnes qui travaillent au Festival de Cannes qui perdent leur emploi à cause d'une répression par la préfecture. Il y a plein de petites histoires comme ça. Et il faut qu'on les relie, il faut qu'on les mette ensemble, il faut qu'on se souvienne qu'on veut avoir un mouvement social fort dans l'écologie comme dans d'autres secteurs. Et pour qu'il soit fort, il faut que quand on vienne nous chercher, on puisse être solidaire. Nobasaran.
Nobasaran. Bonjour à toutes et à tous. J'interviens au nom du collectif pour le triangle de Gonesse. On est dans le même objectif que Bassine Nord Merci. Il y a un entêtement de bétonner les terres agricoles. Europa City a été abandonnée, mais on lutte aujourd'hui pour empêcher le préfet à imposer une cité scolaire sur le triangle de Gonesse, là où le ministre de la Justice a renoncé à installer une prison. Voilà où on en arrive dans l'entêtement que mène le gouvernement pour réaliser bétonner les terres agricoles. Donc la lutte sur le triangle continue. On a déposé des recours contre cette cité scolaire avec un lycée agricole que l'on veut sur le territoire, mais pas sous le bruit des avions où le logement permanent est interdit avec un internat. C'est lamentable ce qui se passe. La lutte continue. On a un rassemblement le 27 juin avec les soulèvements de la Seine, Canal Seine Nord, la Bassée, Green Dock et le triangle de Gonesse avec les soulèvements de la terre sur l'île de France. Je rappellerai que l'île de France, il y a moins d'un siècle, était autonome à 80% au niveau de son alimentation. La plaine de France est connue comme plaine agricole de production de blé. Il y avait de la production maraîchère importante sur le territoire, des alimentations, de l'agriculture nourricière. Et bien sûr, il faut du blé pour faire le pain. Mais ce n'est pas l'unique culture qu'il y a eu historiquement en plaine de France. Merci à toutes et à tous. Et bien sûr, qu'on apporte le soutien. Et on s'est rendu en Sainte-Soline quelquefois. Merci à Sainte-Soline qui nous aide dans cette lutte contre la politique agricole actuelle.
Julien Leguet prend le mégaphone.
Déjà, je voulais commencer par noter qu'il y a un certain nombre d'écharpes parmi nous. À cette heure où la démocratie, elle est fortement attaquée, en cette année peut-être pré-fasciste, de se battre pour que ça n'arrive pas, ça me paraît très important que vous soyez là en écharpe à nos côtés. Il y en avait un certain nombre d'entre vous qui étaient présents à Sainte-Soline, et qu'en dépit de ça, malgré votre interposition pour protéger des blessés, vous aviez aussi été la cible des quads. Et je vous donnais mon état d'esprit aujourd'hui. Ces procès, ils ont une vocation qui est de nous faire taire, qui est de nous réduire au silence. Ils n'auront pas mon silence, ça c'est clair et net. Même si j'ai prévu de ne pas parler, de faire valoir mon droit au silence devant cette justice aux ordres. Cette justice qui m'a condamné la semaine dernière à une peine de 6 mois de rétention à mon domicile pour des dégradations qui ont été réalisées lors de la manif de Sainte-Soline 1, où on voit bien que le logiciel, c'est il y a une association, il y a un regroupement en vue de commettre des dégradations et ou des violences. Si on en attrape un sur les 20 000, eh bien on s'acharne sur celui-là. Donc c'est selon cette logique-là que j'ai écopé de cette peine, qui a été associée à une peine de près de 20 000 euros de dommages et intérêts, également de préjudice moral et de remboursement de frais de justice. Donc là aussi, ça permet de voir un petit peu la stratégie qui sont à l'œuvre en face. Évidemment qu'ils espèrent à travers ça nous réduire au silence et également faire en sorte que toute notre énergie aujourd'hui soit mise à nous défendre et pas être sur l'offensive et à continuer d'attaquer, à dénoncer ce que sont ces maudites méga-bassines. On va pas tomber dans ce piège-là. Évidemment qu'il faut faire état de la répression qu'on subit, il faut l'analyser, la comprendre pour mieux la combattre, mais il faut jamais oublier de parler du fond du dossier. Ce qui nous emmène là, c'est notre volonté commune de se battre pour un monde simplement viable demain. C'est notre amour des rivières, c'est notre amour de pouvoir simplement se baigner dans nos rivières, dans nos marais, de pouvoir s'estomaquer d'un vol d'un héron et ces choses-là. Il ne faut pas perdre de vue non plus que notre lutte, non seulement elle est légitime, mais en plus elle est quasiment légaliste. On nous qualifie d'intervention dans les termes de désobéissance civile, alors que nous luttons contre des ouvrages qui sont classés illégaux. Alors qu'il est, la bassine de Sainte-Soline, elle est vide parce qu'elle est illégale. Elle est vide parce qu'il y a une espèce en voie de disparition dont il y a plus que 600 mâles chanteurs pour toute la France qui s'appelle Loutartène Petière, et que Dubé, la préfète qui porte plainte pour moi contre diffamation,
elle n'a pas respecté le code de l'environnement, elle n'a pas respecté la protection des espèces protégées, elle n'a pas imposé, voilà, comme de l'eau, la société anonyme coopérative de l'eau, qui est cette société privée qui accapare l'eau sur notre territoire, elle ne leur a pas imposé les études et les mesures compensatoires qui auraient dû être mises en place pour une espèce autant en péril. Je rappelle également que la veille de mon procès, de mon verdict la semaine dernière, au tribunal administratif de Poitiers, le rapporteur public, c'est pas n'importe qui, hein, c'est quasiment la parole de l'État, le rapporteur public demandait le démantèlement, la destruction des 5 bassines illégales de Charente-Maritime, de la Zaille des Roches, qui en dépit de recours qui courent depuis 15 ans, avaient continué à être remplis sur dérogation ou sur laisser-faire des autorités. L'État est tellement défaillant dans ce dossier de bassines qu'aujourd'hui, on en est réduit à devoir organiser des opérations de démantèlement de ces ouvrages illégaux. J'ai en mémoire cette manifestation magnifique que nous avions conduite ensemble au mois de novembre 2021, et où alors que le premier chantier de Mosée se mettait en place, nous avions pris la direction de Mosée, nous avions bifurqué, nous étions allés vers la bassine de Cranchaban et nous l'avions désarmée collectivement. Et c'était un grand, grand moment de joie. Et cette bassine, elle est illégale. Et cette bassine, elle n'aurait en réalité jamais dû voir le jour. Donc on voit bien que la stratégie en face, c'est de nous réduire au silence à travers la multiplication des procédures bâillons, parce que c'est bien ça dont il s'agit, et puis également à travers des opérations de maintien de l'ordre, il paraît que c'est le terme, aussi dévastateur que celui qu'on a pu connaître à Sainte-Soline. Alors, je vais faire une petite dédicace à la dame qui m'a emmené jusqu'à Paris aujourd'hui, Emmanuel, le 30 mars 2023, alors que Serge et Michael étaient entre la vie et la mort, je t'ai qualifié d'assassine. Alors peut-être que dans les faits, tu n'as tué personne, mais tu as donné des ordres qui allait dans le sens de la mort. Tu as mobilisé 3200 forces de l'ordre. Je rappelle que la dite Emmanuel, avant d'arriver en Deux-Sèvres, elle était au cabinet de Darmanin. Et donc, elle n'a pas eu grande difficulté à mobiliser toute cette armada. Je rappelle qu'à Sainte-Soline, il y avait également 9 hélicoptères, qu'il y avait 4 blindés, qu'il y a 5000 bombes qui ont été lancées. On parle tout le temps des blessés graves dont la plainte a été classée sans suite. Et ça, c'est un véritable scandale. Ça dit vraiment le dysfonctionnement de notre État, de notre justice et également, très clairement, de l'IGGN. Et tant que ce sera des gendarmes qui seront habilités à vérifier les opérations de gendarmerie, évidemment que ce sera toujours dysfonctionnant. Vous savez que quand les images de Mediapart ont été révélées, ce que ça révèle vraiment, c'est cette complicité de l'IGGN qui, dès lors qu'elle a eu connaissance des images, avait le devoir, et c'est l'article 20 du Code civil, de signaler les actes illégaux qu'elle constatait. Et même si ce n'étaient pas les personnes à qui on pouvait imputer la blessure de nos camarades, ces actes étaient illégaux, on aurait dû enclencher des enquêtes administratives immédiates, ce qui n'a pas été fait. Donc, par rapport à la plainte que les camarades ont posée, il y a un nouveau recours qui a été déposé. Il y a une nouvelle plainte auprès d'un juge d'instruction. Mais vous pensez bien que tout va être mis en œuvre pour enterrer cette affaire, pour que les Dubé, les Darmanin, les Hernandez, c'était le numéro 1 de la gendarmerie à ce moment-là, le général Daniel, le colonel Vessieux, n'est pas à comparaître devant ces instances-là. Et bien c'est pour cette raison que cet après-midi, je ne parlerai pas à la justice. Je ne leur répondrai pas. Et je ne leur répondrai plus tant que les bourreaux de Sainte-Soline ne seront pas passés sous les fourches codines de la justice. Nobassaran, les soutiens camarades du 8 décembre. Agenda. Mercredi prochain, je comparaîtrai auprès du camarade Benoît Feuillu, porte-parole des soulèvements de la terre. Je comparaîtrai également aux côtés de Benoît Jaunet et Nicolas Giraud, qui étaient les porte-parole de la Confédération Paysanne. Et nous allons comparaître en appel pour l'organisation de Sainte-Soline 2. En première instance, Nico a pris 3 mois, j'ai pris 6 mois. Et nous allons passer devant la même juge qui m'a tenu les 6 mois avec bracelet. On va avoir la chance d'avoir des témoins vraiment de très grande qualité. On va pouvoir notamment entendre Benoît Biteau, eurodéputé au moment de Sainte-Soline, est présent lors de la manif. On va également recevoir Michel Forst, rapporteur de l'ONU en charge des défenseurs de l'environnement. Et on entendra également Nicolas Selnik, qui est un des rédacteurs de cette enquête formidable qui s'appelle Les Assoiffeurs et qui vient décrypter comment ces procédés d'accaparement de l'eau sont à l'œuvre sur l'ensemble de nos territoires. Il y a un grand rassemblement qui est organisé à Poitiers devant le tribunal à partir de midi et qui finira tard le soir. Parce que face à l'adversité, ce qui nous permet de tenir, ben c'est ça, c'est quand on fait corps, c'est quand on se retrouve, et puis c'est aussi quand on fait la fête et quand on se retrouve dans la joie, Et donc, il y aura toute une programmation culturelle, théâtrale, également des tables rondes. Et puis, je finirai mon marathon judiciaire le 29 juin avec une plainte pour diffamation du colonel Vestieux, l'ancien numéro 1 de la gendarmerie des Deux-Sèvres. On m'impute le fait d'avoir écrit devant la gendarmerie le 1er mai 2023, alors que Serge était encore dans le coma. On m'impute d'avoir écrit pour Serge et les 200 blessés de Sainte-Soline, Dubé, Vestieux, Darmanin en prison. J'ai été relaxé en première instance sur la diffamation. J'ai été relaxé en appel sur la dégradation que ça représentait. Et donc, je vais avoir affaire à nouveau à ce triste sire, le Ludovic Vestieux. Je ne sais pas si c'est une mise au placard, mais en tout cas, il est à Paris aujourd'hui, sur des affaires notamment d'intelligence, ce qui est paradoxal connaissant le bonhomme. J'en aurais tellement à dire. Voilà, il est devant une bécane en train de faire du fichage, etc. Voilà, donc l'agenda est fourni, le mouvement est loin d'être mort. On attend un moratoire une bonne fois pour toutes. Et surtout, le message qu'on veut faire passer, c'est que si suite à la LUA, il y avait des projets de bassine qui venaient à démarrer au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, tenez-vous prêts à vous mobiliser. Évidemment qu'on lancera les appels à l'échelle nationale pour à nouveau y faire face. Nobin Saran.
Je vous invite à saluer l'outarde de Canepetière, grâce à laquelle la bassine de Sainte-Soline a été déclarée illégale. Outarde Canepetière, vous savez pourquoi on l'appelle Canepetière? C'est la canne qui pète. Et Julien, tu vas nous faire le cri de l'outarde Canepetière, on va tous reprendre ensemble.
Faut bien le faire, sinon elle répond pas. Voilà, c'est un peu sec.
Et tous ensemble!
Ça fait penser à Dubé qui a touché deux fois 4000 euros, parce que Castex, à un moment donné, avait écrit que si les préfets concrétisaient sur les Deux-Sèvres quelques bassines, à chaque bassine, une prime de 4000 euros. Donc Dubé a touché 4000 euros pour une bassine illégale, celle de Sainte-Soline.
Bonjour, dans la continuité un petit peu, pour vous dire que la répression ne nous arrête vraiment pas, si vous êtes dispo le 28 juin, on a une mobilisation contre des projets de méga-bassines dans le Berry. Plus d'infos après sur le site. Merci.
Toi l'écolo, tu l'as t'es infecté, t'as les symptômes, tu es contaminé.
Toi l'écolo, tu l'as t'es infecté, t'as les symptômes, tu es contaminé.
Les flics s'agitent comme Louis de Funès, dès qu'ils connaissent ton nom, ton adresse.
Les flics s'agitent comme Louis de Funès, dès qu'ils connaissent ton nom, ton adresse.
Toi l'étudiante, tu l'as t'es infecté, t'as les symptômes, tu es contaminé.
Étudiant, tu l'as bien infecté, t'as les symptômes, tu es contaminé.
Ton directeur t'a fait des promesses, mais on veut plus toi au CNRS.
Son directeur t'a fait des promesses, mais on veut plus toi au CNRS.
Toi le routard, tu l'as t'es infecté, oh t'as les symptômes mais tu es contaminé.
Toi le routard, tu l'as t'es infecté, t'as les symptômes, tu es contaminé.
T'avais ton billet pour Mexico City, tu rêvais du Chiapas et ta visite est roissie.
T'avais ton billet pour Mexico City, tu rêvais du Chiapas et ta visite est roissie.
Toi le pépé qui donc te l'a donné, oh c'est tu au moins qui t'a contaminé.
Toi le pépé qui donc te l'a donné, oh c'est tu au moins qui t'a contaminé.
Ce n'est pas ta barbe mais ton petit-fils qui tague chaque nuit, Jordi nique la police.
Ce n'est pas ta barbe mais ton petit-fils qui tague chaque nuit, Jordi nique la police.
Toi le bébé qui donc te l'a donné, oh sais-tu au moins qui t'a contaminé.
Toi le bébé qui donc te l'a donné, sais-tu au moins qui t'a contaminé.
T'as pas encore l'âge d'enfreindre la loi, mais tes parents t'ont appelé Oussama.
T'as pas encore l'âge d'enfreindre la loi, mais tes parents t'ont appelé Oussama.
Si je l'ai, tu l'as, si tu l'as, tu la passeras. Si je l'ai, tu l'as, si tu l'as, tu la donneras.
Si je l'ai, tu l'as, si tu l'as, tu la passeras. Si je l'ai, tu l'as, si tu l'as, tu la donneras.
C'est contagieux, c'est là que le bas blesse. Un jour, chacun aura sa fichesse. C'est contagieux, c'est là que le bas blesse. Un jour, chacun aura sa fichesse.
Toujours ce 21 mai 2026 devant le tribunal de Paris, on se retrouve avec les députés écologistes Lisa Bellucco, députée de la Vienne.
Bonjour.
Et Benoît Biteau, député de Charente-Maritime.
Bonjour.
Vous êtes en plein travail en ce moment. Il n'y a pas une loi d'urgence agricole qui est en train de se débattre et de se négocier là à l'Assemblée nationale. Et pourtant, vous avez fait le déplacement ici pour soutenir Julien Le Guay et Bastine Non-Merci.
Ça, c'est le quotidien des députés, de faire des arbitrages entre deux choses absolument cruciales. Mais on a quitté la séance un tout petit peu plus tôt que la pause pour pouvoir venir ici. Et on était justement en train de débattre des méga-bassines, de simplifier encore le stockage de l'eau pour l'agriculture à destination de l'irrigation, spécifiquement, sans aucune condition, sans aucune exigence. Juste, il faut stocker de l'eau pour les agriculteurs. Donc c'est ce que nous propose aujourd'hui ce gouvernement, Annie Genevard, Monique Barbu, l'inconnue ministre de l'Environnement, qui ne défend absolument pas la protection de la biodiversité, la protection de l'eau. Enfin, on ne sait pas pourquoi elle est là, mais elle est là, en séance.
Alors, il paraît qu'on a une ministre de la Santé aussi, mais c'est pareil, elle est très discrète.
Oui, bah là, elle n'est même pas là. Je pense qu'elle considère que ça ne la concerne pas, le fait que tout le monde puisse avoir accès à l'eau. C'est pas un problème de santé pour elle, certainement. Mais plus largement, dans ce projet de loi, on a tout ce qu'on aime pour l'agriculture. Alors, je dis ça de manière ironique, évidemment, mais la facilitation du stockage de l'eau, la facilitation de l'installation d'élevage industriel, la réduction de la participation du public, primauté de l'agriculture industrielle sur les autres agricultures, avec toujours cet argument. Nous, on n'oppose pas les modèles. Nous, on les oppose.
Des zones humides.
La suppression des zones humides, parce que quand même, c'est un petit peu chiant de devoir préserver les zones humides. Le fait de pouvoir tuer tous les loups.
Oui, la prédation des loups.
Par contre, faire sauter le principe de précaution, ça c'est omnibus, ça c'est au niveau européen, non? Et la limitation aussi de la police de l'environnement ou de l'Office national de la biodiversité, là c'est pas dedans aussi?
Non, là c'est pas dedans. Alors sur l'omnibus, on travaille dessus. Moi je viens de préparer une proposition de résolution européenne que j'espère je vais pouvoir soumettre à la Commission des affaires de l'Union européenne très vite pour dénoncer l'omnibus donc, qui veut libérer les pesticides sans aucune clause de revoyure et demander à ce que la France se positionne pour ne pas valider ce délire de simplification européen, puisque c'est ça le principe de l'omnibus, hein, c'est de la simplification des règles européennes, au titre de la simplification, mettre en danger la santé bien sûr, mais aussi la biodiversité, le dérèglement climatique et quelque part la souveraineté alimentaire, parce qu'en vérité, et c'est ce qu'elle n'a pas compris ce gouvernement, c'est ce que n'a pas compris la Commission européenne, c'est que ce qui menace sévèrement la souveraineté alimentaire, c'est le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité, c'est-à-dire tout ce qu'on est en train de continuer d'accélérer, notamment avec cet omnibus 10, mais aussi avec la loi d'urgence agricole qu'on est en train d'essayer de détricoter. On n'y arrive pas parce qu'on n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale en ce moment.
Vous êtes un groupe de 38?
Nous, on est 38, ouais.
Je suis écologiste aussi, ouais. On est 38. Évidemment, on est quand même très, très aligné avec le groupe de la France Insoumise, où sur les questions écolo et agricoles, on est aligné à 95%, on va dire. Je pense qu'on a quelques divergences minimes. Ce qui est plus compliqué à gérer aujourd'hui, c'est une approche, on va dire, différente avec les socialistes, même si nos objectifs sont les mêmes. Moi, je continue à le dire. C'est augmenter considérablement la part de l'agriculture biologique, opérer une transition agricole. Eux, ils pensent encore qu'on peut négocier avec ce gouvernement. Nous, non. Donc, on se bat pied à pied pour essayer de faire reculer ce texte, et c'est dur.
Notre divergence, c'est ça, c'est un peu le en même temps moderne, hein, les socialistes, et puis le principe qu'on pourrait être dans une transition où on aurait le temps. Nous, enfin, et a fortiori moi, qui suis de plus en plus âgé, et qui suis plutôt, enfin voilà, moi je suis plutôt sur la fin de ma carrière politique que le début. Plus le temps passe et moins je suis patient, parce que le caractère d'urgence fait qu'il faut agir vite, et donc moi j'ai beaucoup de mal avec cette complaisance qui pourrait penser qu'on a le temps d'agir et que tout va bien, quoi.
Je voudrais profiter de ce micro et de votre présence pour adresser un salut amical à Charles Fournier, qui est le député d'Indre-et-Loire. On a quand même de la chance à Tours, parce qu'on va voter sans pince à linge sur le nez, hein, que ce soit au municipal ou aux législatives. Et donc voilà, petite dédicace à Charles, qui est votre collègue, qui a eu un petit coup de mou là, ces derniers temps, mais qui va revenir.
On pense à lui beaucoup. On pense à lui. On lui souhaite de revenir en pleine forme avec toujours autant de verve et de volonté, de pugnacité. Donc voilà, on pense à lui, mais comme on le connaît, il va savoir dépasser cet épisode un peu délicat pour lui.
Et en tout cas, merci à vous. Je ne vais pas vous retenir plus, hein, puisque pendant que vous êtes en train de me parler, ils sont peut-être en train de voter des saloperies. Non, donc je vais pas faire.
C'est la pause en ce moment.
J'avais demandé un jour à Charles, toi qui fréquentes les gens de l'autre bord, là, vous devez, je sais pas, boire des verres d'eau à la buvette de l'Assemblée nationale, genre de trucs. Les gens des autres partis, là, qui a priori ne pensent pas, ils n'ont pas les mêmes analyses que nous. Normalement, ils ont des cœurs, ils ont des cerveaux, ils ont même des enfants. Les scientifiques sont là pour nous le dire. Plus ça va mal, et plus on a l'impression que l'agro-industrie, les lobbies et les politiques de droite et d'extrême droite qui les servent enfonce l'accélérateur pour qu'on s'écrase encore plus dans le mur. C'est fou.
Oui, on ne se l'explique pas vraiment. Moi, je dis toujours, tout ça doit être à la fois dû à du cynisme et de la bêtise. Mais je pense qu'il y a une différence de sensibilité. Ce qui fait qu'on est écologiste, c'est que...
C'est que vous buvez de l'eau et que vous avez des enfants.
Mais c'est qu'on en pleure. Enfin, je ne sais pas, ça nous prend aux tripes. C'est ça la différence, c'est que ça nous prend aux tripes. Moi, je vous le dis, j'ai pleuré dans l'hémicycle quand la loi du plomb a été adoptée. C'est insupportable. C'est insupportable pour nous. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas cette sensibilité, je sais pas, ils se rendent pas compte que c'est leur vie, leur santé, leurs enfants, effectivement, qui vont être les premières victimes. On voit l'explosion des cancers chez les jeunes, chez les moins de 50 ans, du pancréas, cancer colorectal, c'est leurs enfants. C'est leurs enfants.
Chez toi, en Charente, hein, explosion de cancer pédiatrique.
Ils sont dans une forme de déni, avec aussi des prétendus experts, comme je vais lâcher, hein, des Emmanuel Ducrot, des Géraldine Vosner... qui continuent de les alimenter avec des propos démagogiques, populistes et des raccourcis simplistes. Et donc, ils s'appuient là-dessus pour continuer d'être dans leur déni. Après, effectivement, c'est peut-être la note d'optimisme. C'est que ma prédécesseure, qui était une macroniste, avait fait le choix d'une ligne politique de soutien inconditionnel au monde agricole, à la FNSEA et donc à cette agriculture productiviste, intensive et industrielle. Et moi, j'avais fait le choix pour la campagne de 2024, justement, de me positionner en direction de ces familles qui sont victimes de l'utilisation de ces pesticides et qui ont des enfants concernés par des cancers pédiatriques. Et la note d'optimisme, c'est peut-être celle-ci, c'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, et je m'adresse à ces députés qui continuent d'écouter Vosner, Ducrot et la FNSEA, est-ce qu'aujourd'hui, même électoralement parlant, ça continue d'être porteur, d'être en défense de ce type d'agriculture-là? Et je pense être la preuve vivante, quand on fait campagne pour la protection de la santé, de nos enfants en premier lieu, mais aussi de l'eau, de la biodiversité, de l'air qu'on respire et de l'argent public, eh bien il y a un espoir d'être élu. Et moi je pense que être sur une ligne politique de soutien inconditionnel au monde agricole de la FNSEA, c'est plus une ligne politique qui fera gagner les députés demain.
Le cancer, il s'en fout de quel bulletin on met dans l'urne et qu'il ne frappe pas que les gens de gauche ou les écolos.
Mais ça, après, ils se débrouillent avec leur conscience. Mais effectivement, le bulletin de vote, c'est pas un bouclier contre le cancer. Ça, c'est évident.
On va hélas se revoir prochainement, Benoît, pour plus parler de la LUA. Et puis, toi, tu es verni, hein, puisque première circonscription de la Vienne. Donc là, c'est Futuroscope et... des poulaillers industriels en pagaille à l'horizon?
Pour l'instant, un très gros, mais qui est un peu à côté de ma circonscription. 150 000 poules dans ma circonscription. C'est plutôt des projets à 30 000 poules qui sortent, 30 000, 40 000.
De formidables incubateurs à grippe aviaire, quoi.
Voilà, c'est formidable. On n'apprend rien du passé, on n'apprend rien de nos erreurs, apparemment. Bon, la suite au prochain épisode. Hein.
Bon courage à vous et à bientôt, j'espère.
27 mai à Poitiers, convocation de Benoît Jaunet et de Nicolas Giraud, porte-parole de la Confédération Paysanne. Devant les tribunaux, donc à l'instar de ce qui se passe aujourd'hui, rassemblons-nous pour défendre les lanceurs d'alerte et les désobéissants civils.
Bon, bah, à la semaine prochaine, quoi.
Voilà, à la semaine prochaine, nous on y sera.
Et on vous le racontera, ce procès du 27 mai 2026 au tribunal de Poitiers, auquel, avec Julien, comparaîtront donc deux membres de la Confédération Paysanne et un co-porte-parole des Soulèvements de la Terre, les quatre injustement accusés d'avoir organisé la manif de Sainte-Soline 2, injustement, puisqu'un porte-parole n'est pas un leader ou un organisateur, c'est un porte-parole. Fin d'après-midi du 21 mai 2026, Julien ressort du tribunal de Paris où il a passé plusieurs heures face à la préfète Dubé.
Peut-être pour répondre à votre question, à celle qui est redondante et tout, est-ce que ça va? Oui, ça va.
Ouais.
Bravo. Puis j'irai surtout bravo Pierre, parce que ce qui est très important dans toutes ces épreuves-là, c'est que je suis clairement pas tout seul, qu'évidemment que les comités de soutien, ça joue énormément du moral, et puis ce qu'on a fait là-haut, continue à parler de la lutte et de la cause qui nous anime, et ce qui profondément c'est important, il ne faut pas tomber dans le piège. Je rends aussi hommage à mes avocats qui sont tout le temps très disponibles, hein, très à l'écoute, et vraiment on a des vrais espaces pour échanger, construire des stratégies. De la même manière que on remerciera jamais assez les camarades des Legal Team qui s'activent, et derrière tout ça, ben, toutes les cagnottes, etc., qui permettent en fait de faire fonctionner tout ça. Le jugement, il va être rendu le 2 juillet. Personnellement, je ne suis pas convaincu que je referai l'aller-retour pour l'occasion. Puis, alors, à voir, si je suis équipé du bracelet, peut-être que j'en profiterai pour venir faire une excursion à Paris. On verra. Après, c'est clair, ça faisait très drôle d'avoir cette bourreau de Sainte-Soline à côté. Je la voyais, elle tripotait son alliance. J'ose espérer qu'au fond d'elle, elle n'est pas fière. C'est pas évident, hein. Je lui reprête des intentions et une humanité qui n'est peut-être plus la sienne. Pas de pronostic, évidemment. Vous avez entendu que le procureur, il propose de suivre les demandes. Il n'a pas demandé la relaxe, ça aurait pu être le cas, hein. C'est pas sa ligne. Et ça n'a pas été dit explicitement, mais la demande faite en termes de réparation, c'est 8000 euros, plus 5000 euros de frais d'avocat. Quand on parle de procédure Bayon, c'est aussi par le pognon. Et là, il y a quand même un truc un peu subtil, parce que les cagnottes, c'est super. Mais est-ce qu'on a bien envie de filer des dommages et intérêts à ces gens-là? Par exemple, les 20 000 euros à la COP de l'eau, peut-être qu'on peut espérer que la COP de l'eau elle soit en faillite et qu'elle soit dissoute avant que je leur règle le moindre centime, voyez-vous. Ça fait aussi partie de la résistance. Et peut-être on en est à ce stade-là et peut-être dans les étapes qu'on doit imaginer construire à l'avenir collectivement, c'est qu'on voit bien que face à cette répression, ce système répressif dont on commence à décrypter et comprendre les rouages et les mécanismes et les objectifs, une des stratégies qui est notamment mise en œuvre par beaucoup de camarades en Italie, ben c'est vivre durablement dans l'insolvabilité. Je sais qu'en Italie, les camarades qui s'investissent dans le Lyon-Turin, tous les jeunes qui partent au charbon, en fait, ils organisent collectivement l'insolvabilité. Ben, peut-être qu'il faut, en effet, puisque ce type de procédures, elles sont appelées à se multiplier, ben, qu'on trouve des espaces pour cogiter ça et penser la solidarité et la lutte sur le long terme. Je suis très conscient, je l'ai déjà dit, de l'énormité du soutien que vous m'apportez. Et j'ai aucun doute sur le fait que nos engagements et nos histoires, elles nous engagent sur le long terme, bah néanmoins. Et puis toujours pareil, hein, si je suis la face visible de l'iceberg, comment on garantit les accompagnements similaires pour tous les camarades qui n'ont pas cette visibilité-là? Comment on pense tout ça sur le long terme? Voilà. Donc un grand, grand, grand merci à vous d'être venu. Évidemment que ça aide à sentir bien, quoi, et debout. Ce que j'espère finalement en attendant que les vrais procès des bourreaux de Sainte-Soline aient lieu, et peut-être qu'il faudra attendre qu'il y ait un changement de gouvernement pour qu'un jour on puisse les voir. Hein. Par exemple, Darmanin, on n'est pas prêt de le voir devant une telle cour, puisqu'il est protégé par son statut de ministre, et que s'il devait être jugé, c'est devant la Cour de justice de la République, qui est constituée d'élus essentiellement de sa majorité. Donc on va peut-être laisser passer le temps, et Pino Bassaran, quoi, hein, toujours. C'est...
On n'oublie pas, on pardonne pas.
Il y a 9 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
Il
y a 9 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une. De ces bassines, on n'en veut pas, de ces bassines, il n'y en aura pas.
De ces bassines, on n'en veut pas, de ces bassines, il n'y en aura pas.
Il y a 9 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
Bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
Il y a 8 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
Il
y a 8 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une. De ces bassines, on n'en veut pas, de ces bassines, il n'y en aura pas.
De ces bassines, on n'en veut pas, de ces bassines, il n'y en aura pas.
Il y a 8 bassines derrière chez moi, mais il n'y en aura pas une.
Alors Julien, que retiendras-tu de cet énième procès de ton marathon judiciaire?
Bah déjà, ça a été assez long, c'est un gros tribunal et il y a eu plein d'affaires avant et juste des arrangements d'agenda entre avocats, quoi. C'était assez lunaire. Je me dis, qu'est-ce qu'ils font qu'ils ne sont pas un Google Agenda? Des trucs assez lunaires aussi, parce que c'était un peu le show business qui était là. Dans les noms que j'ai entendus sur les affaires en amont, il y avait Anthony Delon par rapport à la déclaration vis-à-vis de son père. Il y avait Anne Hidalgo. Enfin, voilà, il y avait un côté un peu VIP, quoi.
Oui, parce que cette chambre, là, la 17e, là, elle est spécialisée dans la diffamation.
Diffamation et tout ce qui est droit de la presse, ouais.
Ton grand crime, hein, tu as osé dire que la préfète Dubé est une préfète assassine.
Ouais.
C'est celle qui a piloté, hein, on le rappelle, la répression policière de Sainte-Soline. Mais comme tu l'as dit, au-delà de sa personne, elle n'est qu'un rouage d'une machinerie répressive.
Ouais, mais un rouage, j'ai envie de dire, au même niveau qu'un Papon ou qu'un Adolphe Thiers. Voilà, moi, c'est bien dans cette généalogie-là que je la classe de ces préfets oppresseurs qui sont capables de donner la charge sur le peuple. Toujours la raison, c'est de protéger le pouvoir et c'est de protéger les puissants. Mais elle était là, elle a fait le voyage de la Haute-Savoie, la dame de la Haute-Savoie, là. J'ose espérer qu'elle n'était pas si à l'aise que ça dans ses petites baskets. J'ai cru recéler un peu de honte,
J'espère qu'elle a honte. J'espère que ça l'habite, j'espère que ça la hante. J'espère que ça la hantera jusqu'à la fin de sa vie. Et puis j'espère même que peut-être un jour, elle aura la franchise de dire ce qui s'est passé en coulisses. Quelle discussion elle a eue avec Darmanin sur au moment où il faut autoriser l'utilisation des armes durant la manif. C'était quoi les sous-entendus? Parce que ces gens-là sont assez intelligents pour pas dire « Vas-y, à fond, tire tendu ». Ils ont des codes, ils ont d'autres manières. Mais c'est évident qu'il y a eu un moment des échanges entre Darmanin, Dubé, les hauts gradés et les gradés de terrain qui leur ont donné les coups des franches pour avoir ces niveaux de violence et pratiquer les tirs tendus tels qu'ils ont été pratiqués. C'est tout l'enjeu de ce type de procès, quoi. C'est qu'est-ce qui restera dans l'histoire? Quand on entend la préfète Dubé, elle se réinvente l'histoire. Elle se déculpabilise dans le récit tel qu'elle se le structure. Peut-être qu'elle a besoin de ça pour pouvoir se regarder encore dans la glace. C'est un combat au long cours. En effet, on ne les lâchera pas jusqu'à la fin, et on ne lâchera pas en fait jusqu'à ce que justice soit rendue. Et je crois que le moment le plus comique, c'est quand l'avocat de la partie civile a parlé de Madame Leguet. En parlant de Madame Dubé, hein. Alors, peut-être qu'on a été mariés à l'insu de notre plein gré durant cette audience.
Mais c'est pour ça qu'elle tripotait son alliance.
Ah oui, peut-être. Oh là là, comme vous y allez.
Monsieur Leguet, vous avez été qualifié de diffamateur. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes resté les dents serrées? Est-ce que c'était la stratégie du silence?
En effet, face à cette cour, c'est pas mal lié au verdict que j'ai subi la semaine dernière.
6 mois de bracelet électronique et 20 000 euros d'amende.
C'est ça. Pour des dégradations commises lors de Sainte-Soline 1 et lors de la grillade partie un mois avant. Bah, peut-être que je me dis que ces déclarations préalables qu'on fait en amont, c'est un peu notre stratégie jusqu'à maintenant, où on y va vraiment avec tout le cœur, on y va vraiment dire pourquoi politiquement on se bat, quels sont nos comportements sur ces temps-là, etc. Finalement, ça donne un peu l'impression de pisser dans un violon. Donc, est-ce qu'on ne fait pas l'économie de ça? Comme l'a dit mon avocat, c'est pas une marque de mépris ou de défiance vis-à-vis, je les connais pas ces juges-là, je vais pas les qualifier d'agents couchés devant le gouvernement, etc. Je n'en prête pas de mauvaises intentions, mais en tout cas, c'est un droit, il peut être utile de le faire valoir, d'autant que...
Donc t'as serré les dents en silence.
Ouais, j'ai juste décliné mon identité et mes conditions de revenus, puisque ça doit être pris en compte dans la peine qui serait infligée. Et donc si on doit résumer un petit peu voilà, le score à la fin... La partie civile demande réparation, il réclame 8000 euros. Je ne suis pas sûr que Madame Dubé ait vraiment besoin de ça. Hein, je veux bien lui payer 2-3 séances de psy, hein, mais 8000 euros, c'est indécent. Elle demande également 5000 euros de remboursement de frais d'avocat. Et finalement, le fait qu'il y ait des demandes qui soient aussi fortes, ça vient confirmer ce qu'on théorise de plus en plus. Ça rentre pleinement dans le champ de la procédure Bayon. C'est dans l'espoir que le simple fait qu'on puisse être menacé de telles peines, bah, ça nous décourage de toute action militante, de toute expression politique. Et donc c'est un piège dans lequel il ne faut évidemment pas tomber. Et donc le PROC a appuyé la demande de la partie civile, de Dubé, en demandant ma condamnation, en demandant au juge de considérer quelle serait la bonne somme à m'allouer.
Quelle bonne somme peut-on allouer à un type qui est au RSA? Tu es insolvable en gros. Hein.
Ben oui, je suis insolvable. J'ai plus d'activité professionnelle depuis 4 ans à présent. Ben, en fait, même 1 euro symbolique, ça dit la culpabilité, c'est pas une bonne décision. C'est l'enjeu de ce procès, c'est la liberté d'expression. Si on avait pu faire un débat sur est-ce que le terme d'assassine était vraiment le bon terme, ben j'en sais rien, mais en tout cas, ça aurait vraiment permis d'avoir des vraies discussions. Parce que le terme d'assassine, pour moi, ça représente quelqu'un qui est envoyé en service recommandé, quoi. C'est un tueur sur commande. Et ça peut être entendu autrement. Ça peut être entendu simplement quelqu'un qui tue, avec l'intentionnalité. Sur la question de l'intentionnalité, ben, va falloir refouiller les archives. Mais après Notre-Dame-des-Landes, il y a bien eu des voix qui se sont déliées dans les rangs des forces de l'ordre, dans les rangs des préfets, etc., qui disaient que sur un coup comme Notre-Dame-des-Landes, le gouvernement était prêt à assumer 1 à 4 morts. Tu vois ? Et avait les stratégies de communication. Tu vois, s'il y avait des vraies investigations, j'aimerais bien avoir les brouillons du service com de la préfecture avant Sainte-Soline. Et je suis à peu près persuadé qu'il y avait un scénar et un communiqué de presse qui était rédigé dans l'optique où il y aurait eu un mort. Et que je sois très suspicieux vis-à-vis de représentants de l'État et sur leur capacité à tuer des militants écolos, ben désolé mais pas désolé, hein. L'État français l'a déjà fait. Faut pas oublier Vidal Michalon, tué sur une manif dans les années 70, Cresmalville, par rapport à la lutte antinucléaire. Faut pas oublier le camarade qui a été tué lors de l'affaire du Rainbow Warrior. Et puis il ne faut pas oublier Rémi Fraisse. Pas oublier, non plus oublier toutes les victimes des violences policières, les Naël, tous les camarades dans les cités, les camarades en Kanaki, qui ont eux aussi à subir des opérations où l'issue peut être la mort.
C'est presque miraculeux qu'il n'y ait pas eu de mort le 25 mars 2023 à Sainte-Soline. Pendant des semaines, Serge a été entre la vie et la mort et Mika n'est pas passé loin non plus.
C'est ça l'élément numéro un qui, moi, fait que le... Bon, je trouve pas que le terme soit exagéré. C'est qu'à le jour où je donne ces propos-là, en effet, Mika et Serge sont entre la vie et la mort. L'histoire et la volonté des camarades, le fait qu'on ait un service public hospitalier français qui soit encore performant et qui soit encore accessible à tous et à toutes, toute la volonté de faire de Serge et de Mika et de leurs proches qui les ont accompagnés, qui les aident à se reconstruire et tout, font qu'il n'y a pas eu une issue fatale. Mais c'est certainement pas grâce à la préfète Dubé. C'est peut-être ce qui m'a scandalisé le plus quand elle a commencé à aller sur le laïus du « on a tout fait pour organiser les secours ». Alors que rendez-vous compte, ils nous avaient même pas dit où ils faisaient la manif. Ça c'est bizarre, hein. Ils savent pas où mettre les secours, mais ils savent où mettre les condés.
Bon, bah alors c'est qu'on ne se quitte plus hein, quand même, hein, puisque si je reprends l'agenda, il y avait 3 décembre 2025, mars 2026, aujourd'hui mai 2026. On se revoit la semaine prochaine donc à Poitiers pour le 27.
Absolument, pour le procès de l'organisation de Sainte-Soline 2. Qui va pas être une paille ni une mince affaire. Hein. On avait pris assez cher en première instance. Et c'est la même juge qui va nous juger que celle qui m'a mis le bracelet la semaine dernière. Donc on n'y va pas la fleur au fusil, quoi. Par contre, on va avoir de sacrés témoins. Puisque sur le plan politique et sur un petit peu justement de ce bras de fer avec le gouvernement, avec Darmanin et compagnie, il y aura Benoît Biteau.
Député de Charente.
De Charente-Maritime et eurodéputé au moment de Sainte-Soline. Il y aura Nicolas Selnik, qui est un des rédacteurs, et là c'est vraiment sur le fond du dossier Bassine et de cette lutte contre l'accaparement de l'eau. Nicolas fait partie des deux journalistes qui ont rédigé ce super bouquin qui s'appelle Les Assoiffeurs, qui vient analyser justement toutes les grandes stratégies d'accaparement de l'eau en France et à l'international. Et puis enfin, on aura l'occasion d'entendre Michel Forst, commissaire à l'ONU, en charge de la protection et des défenseurs de l'environnement. J'espère que face à un tel casting et face à de tels poids lourds, la juge de Poitiers va se rendre compte qu'elle a une décision importante à prendre, une décision historique. Et si elle veut rester du bon côté de l'histoire, il faudra que ce soit dans le sens de la relaxe.
Bah écoute, je vais juste parler en mon nom, mais je pense qu'il y a plein de gens qui se reconnaîtront dans ce que je vais te dire. Merci à Bassine Non-Merci, et notamment merci à toi qui est l'un des co-porte-parole de Bassine Non-Merci, et absolument pas le leader ni le chef, hein, n'est-ce pas ? Je crois qu'on a déjà parlé de ça.
Ouais, mais c'est quoi, la pédagogie, c'est l'art de la répétition.
Absolument, la pédagogie et l'art de la répétition. Merci, parce que dans ces moments-là, je me dis que c'est moi qui pourrais être à ta place, ou n'importe qui d'autre, ou les 30 000 personnes qui étaient à Sainte-Soline, en fait, auraient dû être à ta place dans ce tribunal aujourd'hui. Merci pour ce taf et cet engagement.
Et moi, le remerciement, évidemment, que je le retourne à tous ces camarades qui ont pour certains fait beaucoup de route pour être là aujourd'hui. Je l'adresse également aux avocats, qui ne sont pas des avocats comme les autres. Hein. Ce n'est pas l'argent qui les motive à nous soutenir, à nous défendre dans ce type d'affaires. Le remerciement à toutes les équipes, les legal teams qui font un boulot de l'ombre acharné et d'une efficacité remarquable. Puis merci aux journalistes qui font que cette sombre histoire de Sainte-Soline tombe pas dans les oubliettes de l'histoire.
Bon bah à la semaine prochaine alors.
À la semaine prochaine alors.
Et voilà les amis, c'en est donc fini pour cette étape parisienne du marathon judiciaire de Julien Le Guay de Bassine Non-Merci. On se retrouve donc à nouveau devant le tribunal de Poitiers au prochain épisode de cette émission. Reportage à télécharger via notre site polemixetlavoixoff.com avant qu'on ne se retrouve très vite sur votre radio encore libre préférée. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. No basaran. Salut.